Décryptage, Anne Cantner.
Une femme est tuée tous les deux jours par son compagnon ou ex-conjoint cette année en France. Les chiffres en hausse par rapport à l'année précédente sont régulièrement répétés par les associations ou les membres du gouvernement, notamment à l'occasion du lancement d'une grande consultation sur les violences conjugales en septembre dernier. Pourtant, la justice française est souvent incapable de prévenir les féminicides.
Entre la première plainte et la deuxième plainte, ça a été une année où j'ai passé mon temps à l'hôpital en fait. Ça a été une année où je me suis dit « purée, je vais mourir ». Je le sens que là, je vais y passer.
La ministre française de la Justice a admis avant-hier, ça ne va pas, la chaîne pénale n'est pas satisfaisante. La situation est d'autant plus inquiétante que d'après un rapport remis dimanche, les deux tiers des victimes de féminicides avaient déjà subi des violences conjugales. Pourquoi la police et la justice n'arrivent-elles pas à mieux prendre en charge les victimes et à limiter le nombre de féminicides ? On en parle dans Décryptage avec deux invités. Bonsoir Carole Pascarel.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, membre du Conseil national des barreaux et vous avez participé aux travaux du Grenelle sur les violences conjugales dont je parlais il y a quelques instants. En face de vous, Inaé Benabin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des fondatrices de l'association En Avant Toutes, créée en 2013, et vous vous occupez aujourd'hui d'un chat pour accompagner les femmes victimes de violences. Alors la ministre française de la Justice a reconnu donc dimanche et de manière très claire qu'il existait des lacunes, des failles dans la prise en charge des victimes. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'Inspection générale de la Justice. Le rapport a été donc remis dimanche. C'est aussi ce que disent les associations depuis des années. Carole Pascarel, les femmes victimes de violences ont-elles confiance dans l'institution policière et l'institution judiciaire aujourd'hui ?
On a un certain nombre de témoignages qui manifestement démontrent du contraire, puisque certaines disent que le tribunal médiatique serait plus utile que le tribunal judiciaire. Elles ont peur d'aller devant la justice. C'est vrai que pour n'importe quel justiciable, c'est extrêmement compliqué d'avoir à affronter la justice, le système de preuve dans notre droit français. Et c'est particulièrement difficile pour ces femmes parce que ce ne sont pas des victimes comme les autres. Elles sont atteintes souvent dans leur chair, mais pas seulement. Elles sont atteintes dans leur intimité et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de parler pour ces victimes-là.
Vous le dites, c'est extrêmement difficile. Dans son rapport, l'Inspection générale de la Justice recommande de permettre aux médecins de signaler des violences conjugales, même si la victime n'est pas d'accord, donc de passer outre le secret médical. Que pensez-vous de cette proposition, Inaé Benabin ?
C'est une proposition qui est déjà revenue à plusieurs reprises. À vrai dire, aujourd'hui, la difficulté, c'est surtout comment les choses sont reçues par la police, par la justice. Si on se met à en dénoncer davantage, mais que la réception reste la même, c'est-à-dire extrêmement lacunaire.
On aura l'occasion d'en parler juste après. Justement, je voulais savoir déjà au moment du signalement, avoir votre avis sur le fait que des médecins puissent aller passer outre ce que la victime veut ou non dénoncer elle-même.
C'est difficile de faire une démarche qui aille dans leur sens si on ne n'est pas avec elles. Donc vraiment, les associations, l'objectif, c'est de travailler avec elles, que les victimes reprennent possession de leurs droits, de leurs mouvements. Quand on est face à des violences conjugales, on a un avis personnel qui est toujours nié. Et donc, elles sont elles-mêmes habituées à cette rengaine qui est finalement que des personnes décident à leur place, hein, généralement leur conjoint ou leur ex. Donc, la question se pose de manière très précise quand c'est un professionnel, à quel point l'institution peut ou a le droit, et surtout à quel point c'est constructif,
en fait. Et dans un rapport encore déséquilibré, puisqu'évidemment, on n'est pas sur un pied d'égalité avec un médecin, j'aimerais qu'on écoute une femme victime de violence raconter justement son parcours auprès des policiers, puisque vous disiez que c'était difficile.
J'ai appelé la police, j'avais peur. À partir de ce moment-là, je pensais qu'on me protégerait. Et je comprends plus rien au système, en fait. Parce que je me suis retrouvée à devoir me justifier face à un policier qui m'a dit « Vous avez reçu des coups ?» Je dis « Ben, il m'a balancé sur le piano, il m'a dit « C'est pas des coups. Coup de pied, coup de poing, coup de tête. » J'ai fini par chercher, je lui ai dit « Ben, après, ça a duré 40 minutes le temps que vous veniez. » Il m'a bousculé, oui, il m'a donné des coups de coude. Et après, voilà, qu'est-ce qu'il en ressort que je change ma version. Au bout d'un mois, j'osais aller déposer plainte. On m'a dit qu'il fallait faire l'enquête et qu'il fallait que je reste chez moi. Puis que si ça se passait mal, il fallait que je les appelle. Il a recommencé un soir, il m'a sauté dessus dans la rue. J'avais des bleus de partout, je suis montée au commissariat. Quand j'ai dit que je voulais déposer plainte, on m'a dit non, c'est pas possible parce que vous avez pas de certificat médical. Donc on m'a envoyé aux urgences. J'ai attendu 4 heures, 5 heures qu'on me prenne. J'étais avec mon petit garçon. Quand je suis arrivée de nouveau au commissariat à 1h, 2h du matin, on m'a dit c'est trop tard pour prendre une plainte. Le lendemain matin, je retourne au commissariat. Là, il y avait une policière qui était vraiment bien, qui m'a dit surtout après votre dépôt de plainte, vous dites bien qu'il y a une patrouille qui vous emmène, parce qu'il faut pas que vous y alliez toute seule. J'ai déposé ma plainte, j'ai dit ben faudrait qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on m'accompagne. Ah ben non, vous y allez, puis si ça se passe mal, vous nous appelez. Donc j'y suis allée, je me suis fait séquestrer. C'est la police qui est intervenue.
On l'entend dans ce témoignage, les policiers demandent un certificat médical, posent des questions très concrètes concernant des coups portés ou non à la victime. Carole Pascarel, on a affaire à deux schémas qui sont très différents. En fait, la confusion dans laquelle peut se trouver la victime d'un côté et puis de l'autre, le monde très rationnel de la police.
Oui, c'est ça. Elles sont confrontées à des questions qui les perturbent. Elles ont le sentiment d'être passées à la moulinette. Et quand on entend ce témoignage, ce qui est frappant, c'est que il faut bien avoir conscience que finalement, on parle pas de violence conjugale, mais on parle de violence intrafamiliale. Parce que vous voyez cette victime qui est avec son fils, elle est touchée, mais son fils est également touché. Les enfants sont touchés. Et pour rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un accompagnement global à tous les niveaux qu'il faudrait vraiment mettre en place, que ce soit le système associatif, les médecins, les avocats, dans les commissariats. C'est évidemment par la formation que ça passe, et c'est tout l'objectif des associations, notamment l'association Lawyers for Women, pardon, dont j'ai la vice-présidence, pardon, pas co-présidence. C'est Michel Dayan et Emmanuel Daoud du Barreau de Paris qui sont co-présidents de cette association. Mais il y en a d'autres. Hein. La formation est fondamentale pour qu'on change les mentalités. Je trouve qu'on est trop encore dans un système archaïque où on n'entend pas la victime. On ne l'entend pas, c'est-à-dire que elles ont le sentiment qu'on remet en cause leur parole. Et ça, c'est insupportable parce que déjà, elles arrivent à sortir de leur silence, ce qui est extrêmement difficile. Et une fois qu'elles arrivent à sortir de leur silence, toutes ces questions, ça les perturbe et ça les remet dans le déni dans lequel elles pouvaient être avant de sortir de ce silence.
La ministre de la Justice a expliqué justement dimanche qu'il fallait des formations dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les tribunaux. En quoi devraient consister ces formations pour être efficaces, Inaé Benabin ?
En beaucoup de choses, mais ce témoignage montre très bien le cœur du problème justement et de la formation nécessaire. Elle amène un témoignage qui peut être brouillon parfois quand le traumatisme est grand, mais elle raconte des faits qui sont forts. Elle dit qu'il l'a balancé sur le piano par exemple, et le retour qu'elle reçoit est que ça n'est pas des coups. Ça rentre dans les violences. Même en fait, l'étendue des violences, leur mode d'exécution sont mal connus ou sont pas encore assez bien appréhendés par les policiers et policières ou par les gendarmes, parce que encore une fois, elle démontre le point central. Aujourd'hui, en France, la prise en charge des victimes de violences est encore entre les mains du bon vouloir de professionnels, qui n'est pas et donc il n'y a pas d'ordre général de processus à suivre. De formation complète. Aujourd'hui, les formations, elles sont souvent facultatives. C'est souvent les professionnels qui sont capables de prendre en charge les victimes. C'est souvent par intérêt personnel, quand ce n'est pas par le fait d'être témoin ou d'être touché soi-même par des violences. Et donc, c'est parce que, et si seulement, des policiers et policières et gendarmes vont avoir l'envie d'apporter cette connaissance supplémentaire à leur pratique, qu'ils et elles vont faire un bon accompagnement des victimes. C'est un problème.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau d'une sorte de culture de la preuve ? C'est ce qu'on entend aussi dans ce témoignage-là.
Alors au-delà de culture de la preuve, je parlerai d'une culture sexiste, parce que la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est le rapport plus général à la parole des femmes. Les femmes sont peu entendues, leur parole est toujours minimisée et elles le savent très bien. Ça veut dire que aller parler, c'est déjà plus compliqué que pour un homme, et ça veut aussi dire que les professionnels en face s'attendent à imaginer qu'elles fabulent, qu'elles exagèrent, ou voilà, qui se reposent en fait sur des stéréotypes stéréotypes très courants qui sont le fait d'un comportement global sexiste qui est encore en cours aujourd'hui.
Ça avait été très bien montré d'ailleurs dans une enquête qui avait été effectuée par le groupe F l'année dernière, qui avait recueilli justement de très nombreux témoignages de femmes qui racontaient en fait ce qu'on leur avait répondu quand elles étaient allées porter plainte, et les témoignages étaient effectivement assez édifiant. La ministre de la Justice disait aussi dimanche que des formations existaient déjà pour des magistrats depuis le mois d'octobre, donc une formation qui cette fois-ci serait obligatoire à chaque changement de poste. Carole Pascarel, est-ce que ça pourrait permettre de faire en sorte que moins de plaintes, par exemple, soient classées sans suite? Parce que, je précise pour que nos auditeurs aient des chiffres en tête, que dans le rapport de l'Inspection Générale de la Justice, il est indiqué que 80% des plaintes transmises au parquet ont été classées sans suite. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose?
Bien sûr que ça pourrait changer quelque chose, mais il ne faut pas se contenter de former les magistrats, il faut former toute la chaîne, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous cite un exemple aussi, qui est assez parlant. Il n'y a pas d'UV au titre de l'aide juridictionnelle pour accompagner les femmes lorsqu'elles vont porter plainte. On a un système qui permet aux victimes d'avoir l'aide juridictionnelle à partir du moment où elles engagent une procédure. Or, une plainte ne rentre pas dans la définition de la procédure au sens de l'aide juridictionnelle. Et ça, c'est problématique parce qu'on sait que quand les victimes sont accompagnées par un avocat, la plainte est mieux formulée, elles se sentent accompagnées. On peut aider la victime à rassembler les preuves qu'elle a parfois du mal à faire elle-même. Voilà, donc c'est un exemple qui est assez frappant et qui rejoint la question du budget, éternel budget. Il faut se donner les moyens d'une véritable politique publique et de lutte contre la violence faite aux femmes.
Pour que la situation avance, pour qu'il y ait plus de condamnations, il faudrait effectivement qu'il y ait davantage de plaintes et donc davantage de procédures, parce que le rapport qui a été remis dimanche à la ministre de la Justice souligne quand même que une fois que des procédures sont engagées, ça se passe plutôt bien, il y a des sanctions qui sont lourdes, il y a un suivi qui est mis en place. Le problème, c'est plutôt avant. Je le disais tout à l'heure, les deux tiers des victimes de féminicide avaient déjà subi des violences. Plus de la moitié d'entre elles s'étaient fait connaître après auprès de la police, et pourtant très peu de plaintes enregistrées. Comment ça se fait, Inaé Benyaba?
Madame Belloubet, justement, a évoqué quelque chose dans ce rapport qui, je trouve, répond à votre question. Elle disait qu'il était important aujourd'hui, face aux réponses accablantes, finalement, qu'elle avait vues de la part des professionnels, qu'il était important aujourd'hui de mettre en place une culture de protection des victimes. Si elle parle de mettre en place cette culture, c'est bien qu'elle n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a un travail à faire qui est de coordination, qu'elle soulignait justement que la police travaille trop peu avec les associations, la justice travaille trop peu avec les associations. Les associations elles-mêmes sont toujours, n'ont pas assez de moyens pour avoir un maillage qui soit à la hauteur des nécessités des femmes. Et donc, en fait, chaque service, on va dire, travaille un peu dans son coin, là où le parcours des femmes passe par l'ensemble de ses besoins. Donc aujourd'hui, on voit, nous, on fait partie de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, donc qui réunit 67 associations d'accompagnement des femmes victimes sur toute la France. Les rapports avec la police et la gendarmerie est complètement différent d'un territoire sur l'autre. Le fait qu'il y ait une inégalité de territoire, c'est un problème majeur, et ça démontre bien que l'État n'a pas encore mis la priorité sur cette question qui est censée être une grande cause nationale.
Mieux protéger les victimes, vous en parliez à l'instant. Il faudrait aussi peut-être, retourner un peu le problème. On parle de mieux protéger les victimes. Ça passe aussi par mieux suivre les hommes violents. J'en parle parce qu'il existe un dispositif qui est la Convention d'Istanbul, qui établit certaines dispositions qui sont assez avancées pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Et surtout, il existe un mécanisme de suivi qui est assuré par le groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur l'action contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, le Grevio. Et ce Grevio a publié aujourd'hui son premier rapport de référence sur la France. Il y a deux problèmes qui sont relevés sur le thème dont on parle aujourd'hui: la garde parentale et l'hébergement des femmes victimes de violences. On va parler peut-être d'abord de l'hébergement pour les femmes victimes. Inaé Benyaba, est-ce qu'il faudrait plus d'hébergement pour les femmes victimes, ou est-ce qu'il faudrait au contraire éloigner les hommes violents?
Et il faudrait les deux. à vrai dire, parce que les situations sont multiples et elles ont des besoins qui sont très différents. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez d'hébergement pour les femmes et il n'y a pas assez d'éviction du conjoint violent du domicile. Donc de toute façon, elles sont mises en précarité et en difficulté dès la question de la séparation, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Mais parfois, les deux sont nécessaires. Parfois, elles ont besoin d'être mises en sécurité dans un endroit que le conjoint ne connaît pas. Par exemple, quand il y a des menaces de mort fortes, quand il y a une personne qui est en grand danger, il est parfois nécessaire de les mettre dans des espaces où les conjoints violents ne pourront pas les retrouver. Dans d'autres cas, elles ont besoin de pouvoir garder la maison qui est à elles, elles ont besoin de pouvoir garder leur réseau de sociabilité, elles ont besoin de pouvoir avoir l'école quand il y a des enfants. Pour autant, ce qui est toujours, la question se pose toujours de manière différente et c'est ça qui est difficile, c'est que nous, en tant qu'expertes sur la question des violences, on nous demande toujours qu'elle est la recette secrète. Il n'y en a pas. S'il y en avait, ça fait très longtemps qu'on aurait éradiqué ce problème. Il nous faut des moyens, il nous faut beaucoup de moyens et il nous faut des moyens divers. Parce que toutes les réalités sont différentes et elles ont besoin d'être adaptables.
Parmi ces différents moyens, il y a notamment la question de la garde parentale. Est-ce qu'il faut la retirer ou non? C'est une des questions qui est soulevée par le groupe d'experts du Conseil de l'Europe dont je parlais il y a quelques instants. C'est très important parce que souvent, les enfants sont un moyen de rester en contact et de poursuivre le harcèlement sur la femme qui a déjà été victime de violence. Carole Pascarel, est-ce que selon vous, il faudrait systématiser le retrait de la garde des enfants et de l'autorité parentale pour les pères violents ?
Alors, la question de systématiser une sanction est toujours très compliquée. Et Naïve vient de le dire, le caractère systématique d'une mesure n'est jamais bon parce qu'il faut s'adapter à chaque situation. En revanche, il est vrai que prévoir des mesures d'accompagnement, des suivis des auteurs, c'est évidemment fondamental et c'est fondamental dans l'organisation, encore une fois, de toute la famille. Donc, si ça pouvait être le principe de mettre à l'écart, en tout cas sur une période restreinte, l'auteur des victimes, et de l'éloigner en quelque sorte, encore une fois, sur une période restreinte des enfants, de manière libre, mais qu'ils puissent continuer à avoir un lien dans un centre de visite médiatisé, ça c'est fondamental. Et dans ce centre, il faudrait évidemment que l'auteur des victimes soit accompagné et un suivi. Parce qu'on sait que finalement, les personnes qui sont violentes ont été elles-mêmes éduquées dans une famille violente, en quelque sorte, où la violence est un système. Et c'est ça qu'il faut arrêter par ce biais-là, donc en mettant les enfants finalement aussi à l'abri de la personne violente, parce que les enfants sont des victimes directes, et donc en encadrant ce qu'on appelle des droits de visite médiatisés, on supprime le droit d'hébergement pendant un temps, ce qui permettra de faire un travail psychologique sur l'auteur et par l'auteur.
Parmi les pistes qui sont envisagées pour éloigner justement la victime de l'auteur de violence, il y a l'utilisation du bracelet électronique. Ça fait l'objet d'un projet de loi
anti-rapprochement
en France, d'un bracelet anti-rapprochement, donc qui signale le rapprochement de l'auteur de violence s'il dépasse des limites qui ont été fixées. Est-ce que ça vous paraît une bonne option?
Oui, c'est une bonne option parce que je crois que toutes les pistes doivent être explorées. En Espagne, ce dispositif existe depuis de nombreuses années. Il a fait ses preuves. C'est une bonne option parce que tel que le projet de loi a été formulé, la victime va pouvoir le demander. Et donc, ça n'est pas imposé. Ça, c'est très important. Ça ne sera pas imposé à la victime. Il faudra l'accord des parties.
Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos expériences, votre travail auprès des femmes victimes de violences conjugales. Je le rappelle, 136 femmes tuées depuis le début de l'année par leur mari, leur compagnon ou leur ancien conjoint. Le gouvernement doit proposer des mesures la semaine prochaine à l'issue de 3 mois de consultation en France. Merci donc Carole Pascarel, avocate, membre du Conseil national des barreaux et vice-présidente de l'association Lawyers for Women, qui a justement pour objectif de mettre en relation tous les professionnels du droit qui interviennent au long de ce processus, et Inaé Benabin, fondatrice de l'association En Avant Toute. Décryptage a été réalisé ce soir par Claude Battista, attachée de production Elsa Olaizola, rédaction en chef Patrick Adam. Très bonne soirée à tous, à demain.